en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de l'Académie, chers amis, je suis très honoré d'être parmi vous cet après-midi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Dieu se porte bien. À rebours des prophéties qui proclamaient la mort de Dieu, reprenant Nietzsche et son cortège de disciples, la religion est aujourd'hui au cœur du social et des réalités géopolitiques. Si l'islam occupe une place de choix dans les médias pour diverses raisons, on ne saurait oublier l'attraction exercée par le christianisme. Première religion du monde sur le plan démographique, c'est aussi une offre spirituelle qui progresse et se réinvente. Ce qui nous rappelle au passage que le christianisme, c'est avant tout un vecteur d'entrée dans la religion et dans la foi. C'est ici un petit clin d'œil à Marcel Gauchet. Il y a un peu plus d'un demi-siècle, un film de Jean-Pierre Melville, Léon Morin prêtre, annonçait en partie ce renouvellement du christianisme. Sorti dans les salles en 1961, ce film campe l'abbé Morin, interprété par Jean-Paul Belmondo. Ce prêtre singulier est très soucieux d'accompagner jusqu'à la conversion une jeune femme communiste qui s'appelle Barney, avec laquelle il dialogue. Très fervent, ce prêtre est en même temps en tension avec son église. À propos des dorures et statues de l'église paroissiale, il déclare « Il faudrait mettre le feu à tout ce bazar ». Plus loin, il s'emporte contre les mentalités routinières qui arrêtent, pense-t-il, le progrès de l'église. Soucieux d'un accompagnement individualisé des fidèles, à commencer par celui de la narratrice, il suggère, au moment où son interlocutrice bascule vers la foi, « Vous n'avez pas pensé à devenir protestante ? Ils sont souvent merveilleux, ces gens-là. » À la réponse indignée de la convertie, l'abbé Morin enfonce le clou en répliquant « Je ne me moque pas, je dis ce qui est ». Plus loin encore, l'abbé rêve de nouvelles formes d'accueil et il songe à haute voix aux cathédrales de cristal, dit-il, qui se construiront un jour. Alors, ne nous y trompons pas, l'abbé Morin est un prêtre catholique. Il est fier de sa mission. Mais dans son aspiration à un christianisme plus individualisé, plus innovant, plus communautaire aussi, moins ritualiste et porté par une exigence mystique christocentrée, il concentre, presque à la manière d'un type idéal weberien, des tensions qui traversent l'ensemble du christianisme occidental contemporain. On peut les résumer ainsi en suivant Jean Delumeau. D'un côté, une chrétienté d'observance traditionnelle qui s'estompe, la fin de ce que Jean Delumeau appelle le christianisme comme pouvoir, encadrant les masses par le rite et le rattachement territorial. De l'autre, l'essor d'un christianisme de conversion, plus individualisé, porté avant tout par la communauté des croyants. Le protestantisme évangélique constitue sans doute aujourd'hui la principale expression de cette dynamique de recomposition. Ce christianisme à vocation prosélyte touche aujourd'hui environ 610 millions de chrétiens, mais à vrai dire, on n'est pas à 5 ou 10 millions près. Comment en cerner les contours et quelle est son influence géopolitique ? Commençons par rappeler que les évangéliques ne se fédèrent pas dans une église centralisée, en cela ils sont très protestants, ils aiment la diversité, ni même dans un réseau unique. Ils se caractérisent par l'individuation de l'option religieuse, la primauté de l'association de convertis, la fraternité élective, pour reprendre une formule très heureuse de la sociologue du catholicisme Danielle Hervieux-Léger, doublée d'un accent exclusiviste sur le salut en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, c'est ce qu'on appelle le crucicentrisme. Dernier élément récurrent, et non le moindre, le biblicisme, à savoir une lecture très normative et très directe de la Bible, reçue comme parole de Dieu. Issue de la matrice des réformes et des réveils, anabaptisme, piétisme, baptisme, méthodisme et j'en passe, ces protestants évangéliques donc sont 610 millions, c'est-à-dire environ un chrétien sur quatre dans le monde aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme. Ils se divisent entre une tendance pentecôtiste et charismatique d'un côté qui met l'accent sur l'efficacité de l'agir divin au travers du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit qui réalise des miracles, et d'autre part une tendance plutôt piétiste et orthodoxe qui valorise la doctrine et la pratique droite, l'orthopraxie. On pourrait parler aussi d'ascétisme séculier. Sans institutions centralisées, ces protestants évangéliques ont longtemps été influencés par la culture anglo-saxonne. La planisphère évangélique d'aujourd'hui, et je crois que vous avez une carte sous les yeux, emporte l'héritage. Avec 98 millions d'entre eux en Amérique du Nord, dont 94 millions aux États-Unis, l'oncle Sam doit toujours compter avec cet évangélisme omniprésent dans les débats, au point que le président Barack Obama lui-même, pourtant peu suspect d'acquaintance particulière avec ces milieux, a demandé au pasteur évangélique Rick Warren d'effectuer la prière de sa première investiture, le 20 janvier 2009. Le puissant soutien américain à Israël illustre une autre dimension, aux conséquences géopolitiques naturellement incalculables, de ce poids évangélique qui nourrit aux États-Unis un mouvement sioniste chrétien fort d'environ 40 millions de fidèles. En Europe, l'évangélisme britannique, traditionnellement influent, y compris dans l'Église anglicane, reste animé d'un zèle missionnaire dont le voisin français vérifie toujours l'impact en 2015. Aux antipodes, l'évangélisme océanien, environ 7 millions de fidèles, s'appuie lui aussi sur une culture prosélyte et un substrat théologique et culturel hérité des méthodistes et des néo-puritains anglo-saxons du XIXe siècle. D'un hémisphère à l'autre, l'évangélisme type renverrait au portrait d'un homme blanc, de classe moyenne, parlant anglais, zélé dans son témoignage de foi, et adossé à des valeurs conservatrices qui peuvent le conduire à l'engagement politique actif. Mais conclure le survol évangélique sur l'image arrêtée de l'oncle Sam constituerait une erreur. L'influence américaine connaît depuis 30 ans un déclin structurel qui annonce une prise de pouvoir pour bientôt, celui des évangélismes des Suds, dont les prophètes, apôtres, missionnaires, prédicateurs, servantes du Seigneur, et j'en passe, on trouve de tout, animent avec ferveur les banlieues des grandes cités européennes. Des pays comme le Brésil, 46 millions d'évangéliques, le Nigeria, 54 millions d'évangéliques, le Kenya, 20 millions, le Congo, République démocratique, Kinshasa, 15 millions, la Corée du Sud, 9 millions, alimentent une part croissante des effectifs missionnaires mondiaux. Ils apportent avec eux des ritualités, des styles de prédication qui témoignent de recomposition endogène. Cette montée en puissance des Suds ne se fait naturellement pas sans tension, ni concurrence, en particulier avec l'islam. Deux continents illustrent cette compétition, l'Europe et l'Afrique, dont salafistes, tabliris, pentecôtistes et évangéliques sillonnent les agglomérations à la recherche de convertis et de zélotes. Ingrédient rêvé pour ce fameux choc des civilisations dont on nous a rebattu les oreilles il y a quelques années? Pas si sûr. Des aires de tension comme le Nigeria dessinent certes un scénario de confrontation brutale, tandis qu'au Maroc et en Algérie, les esprits s'échauffent devant l'essor évangélique qui, bien que marginal, menace l'homogénéité religieuse en place. Mais dans la majorité des cas, la concurrence est pacifique. D'autant plus que pour l'évangélique, comme pour le musulman, le défi principal aujourd'hui, c'est l'incroyance. À commencer par celle de l'européen sécularisé, jugé oublieux de Dieu, oublieux du sacré, soupçonné de repeupler son Olympe déserté avec des avatars de Star Academy. Saïdou Djibou, pasteur évangélique d'origine musulmane, ancien petit caïd de banlieue, reconverti en prédicateur born again, le souligne. Il revendique sa foi en Jésus-Christ, mais sans renier son attachement profond à sa culture musulmane d'origine. Le choc géopolitique présumé entre islam et évangélisme ne serait-il qu'un leurre qui en cache un bien plus profond, celui d'une vision religieuse du monde face à une vision sécularisée qui relègue la foi et la piété dans la rubrique Antiquité brocante. Cette vision religieuse se double d'au moins quatre logiques d'impact, sur lesquelles je passerai rapidement, mais nous y reviendrons, je l'espère, au moment des questions. D'abord, naturellement, la christianisation ou recristianisation du monde, suivant une optique résolument missionnaire, qui investit des ressources très considérables afin de multiplier les implantations chrétiennes nouvelles. C'est la première logique d'impact et la plus évidente, si évidente qu'on l'oublie parfois. Ensuite, deuxième logique d'impact, l'accent sur la responsabilité individuelle. La conversion est celle de l'individu, avec reconfiguration de la biographie personnelle. Troisième logique d'impact, la mise en avant de l'association volontaire ou la fraternité élective militante. Et enfin, cette expression protestante born again mise aussi sur l'entrepreneuriat local en réseau, suivant des dynamiques que l'on peut qualifier de glocales. Alors qu'est-ce que c'est que glocal ? Qu'est-ce que c'est que la glocalisation ? Eh bien, ça signifie que ces églises sont en affinité avec ce fameux slogan altermondialiste qui veut qu'il faut agir local et penser global. En d'autres termes, l'horizon national n'est plus prioritaire. Le local et le transnational priment désormais. Pour le pire ou le meilleur, les évangéliques constituent un des fers de lance des sociétés civiles émergentes face à des États contestés, parfois défaillants. À l'utopie de l'État-providence, elles opposent des welfare churches, des églises-providence, qui entendent proposer une réponse aux besoins individuels par une approche intégrée qui, au mieux, rend palpable, qui sait, l'utopie du royaume de Dieu, avec des guillemets, et au pire, emprisonne dans une église bocale au parfum sectaire. En définitive, et j'ai presque fini, la carte géopolitique de l'évangélisme renvoie à l'émergence d'un nouveau portrait robot de l'évangélique moyen du XXIe siècle. Les traits d'un blanc européen de classe moyenne s'estompent, cédant la place à ceux d'une femme pauvre et basanée d'une mégapole africaine ou latino. Le nouveau portrait robot de l'évangélique aujourd'hui, c'est celui-là. L'heure est à l'inversion progressive des flux, portée par les dynamiques prosélytes et polycentriques de l'évangélisme contemporain. Le colonisé ou l'esclave de jadis, l'oncle Tom, sagement soumis, sagement protestantisé, christianisé par les missionnaires du Nord, donne désormais de la voix sur les estrades, sur les nouvelles chaînes de télévision satellitaires, clamant sa fierté retrouvée, rapportée à des Occidentaux jugés décadents et matérialistes, le vin nouveau d'une conversion puisée aux sources des évangélismes du Sud. C'est la revanche de l'oncle Tom sur l'oncle Sam. Je vous remercie.